France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Marie Curie est l'une des scientifiques les plus célèbres de l'histoire des sciences, considérée en partie à raison comme une exception à une époque où les femmes étaient peu représentées dans le monde de la recherche. Cependant, le laboratoire qu'elle a dirigé de 1906 jusqu'à sa mort en 1934 a accueilli bon nombre de femmes scientifiques confirmées ou en devenir. Qui étaient ces femmes du laboratoire de Marie Curie et comment leur histoire nous permet-elle de dresser un portrait protéiforme de ces femmes de science méconnues du début du XXe siècle ? Science Chrono fait la lumière aujourd'hui sur ces rayons dans l'ombre du laboratoire de Marie Curie. Et pour nous aider dans notre enquête, nous sommes en ligne aujourd'hui avec Nathalie Pijard-Micaud. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes historienne, directrice adjointe du musée Curie et autrice du livre « Les femmes du laboratoire de Marie Curie » paru aux éditions Glyph en 2013, un livre qui sera très prochainement réédité dans une version revue et considérablement augmentée. Merci beaucoup Nathalie Pijard-Micaud de venir nous parler aujourd'hui de ces femmes scientifiques qui ont conduit d'importantes recherches au sein du laboratoire de Marie Curie. Avant de nous plonger dans notre sujet d'histoire des sciences et d'entendre les voix de certaines d'entre ces chercheuses, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous parlerons des couleurs de la préhistoire et de deux découvertes récentes de traces de pigments bleus à l'époque paléolithique. Ces découvertes surprenantes nous amènent à nous reposer la question des pigments à la préhistoire et des façons dont une discipline, l'archéométrie, nous éclaire sur leur origine, leur préparation et leur fonction. Mais avant cela, revenons à ce laboratoire de Marie Curie qui, tout au long de son existence, a accueilli des femmes chercheuses venues de tous les pays. On va entendre leur voix aujourd'hui dans des archives sonores assez émouvantes, des archives qui vont nous permettre à la fois de comprendre comment elles ont travaillé aux côtés de Marie Curie, mais qui vont aussi nous permettre d'affiner des portraits de femmes de science au début du XXe siècle. Et pour commencer, je ne résiste pas à l'envie d'ouvrir d'emblée cette boîte à archives précieuses que vous nous avez confiée, Nathalie Pijard-Micaud, et on vous en remercie. On écoute la voix de l'une de ces femmes du laboratoire de Marie Curie. Il s'agit de la chimiste norvégienne Helen Gleditsch, interrogée en 1967 par le journaliste Paul Bordry à l'occasion du centenaire de la naissance de Marie Curie.
Mademoiselle Gleditsch, vous connaissez ce bureau ?
Mais bien sûr, c'est le bureau de Madame Curie. Et j'y suis entrée maintes fois.
La première fois, c'était quand ?
Ah, je pense que c'était en 1919.
En 1919, c'est-à-dire, au fond, le bâtiment était tout neuf.
Non, le bâtiment a été construit en 1912 à 14. C'est à 14 qu'elle a fait le déménagement. Mais naturellement, beaucoup de travailleurs étaient au front alors. Et elle a ouvert les portes quand est venu le moment de la paix.
Quand la guerre a été terminée.
Quand la guerre a été terminée.
Et quel était votre premier contact avec Marie Curie?
Oh, c'était bien plus avant cela. Je suis venue ici en 1907, quand elle avait encore son laboratoire rue Cuvier.
Si vous pouviez nous parler de ce laboratoire.
Mais oui, elle avait des pièces un peu dispersées au rez-de-chaussée de grands bâtiments qui appartenaient à la Sorbonne et qui servaient pour l'enseignement de la première année des étudiants en médecine, pour la PBC, on appelait alors.
Et pourquoi lui avait-on donné ces bâtiments-là, ces salles-là?
Parce que c'était là où était Monsieur Curie pendant le temps qu'il était professeur à la Sorbonne. On avait trouvé là qu'elle allait loger, il n'avait pas ailleurs.
Ce n'était pas très confortable.
Non, du tout. La place était très restreinte et il y avait des pièces un peu comme ça dispersées d'ici et de là. Il y avait un petit pavillon où on faisait des travaux de radioactivité très forte. Et c'est dans ce petit pavillon-là que j'ai travaillé, moi, parce que j'ai obtenu une place chez Madame Curie grâce à ce que j'étais chimiste. Et que j'ai pu faire pour elle et le laboratoire certains travaux utiles.
Voilà, Nathalie Pijard-Micaud, on va parler bien sûr du contenu de cette archive, mais avant ça, j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire derrière l'enregistrement de cette archive. Comment vous les avez trouvées et pourquoi ont-elles été aussi précieuses dans votre enquête sur ces femmes du laboratoire de Marie Curie ?
Alors, ces archives, en fait, étaient déjà au musée Curie depuis 67. Paul Bordry, qui travaillait à l'époque pour l'UNESCO, était le mari de celle qui sera la première directrice du musée Curie. Et donc, c'est elle qui avait organisé le déjeuner des anciens collaborateurs de Marie Curie pour le centenaire de sa naissance en 1967. Il y avait eu plein d'événements à la Sorbonne, un peu partout. Et elle avait organisé un déjeuner des anciens collaborateurs où, malheureusement, ceux qui étaient encore vivants étaient venus. Et Paul Bordry en avait profité pour interviewer plusieurs de ses collaborateurs, hommes et femmes. Et ça a été une ressource très précieuse pour nous parce que c'était des témoignages directs de gens qui avaient travaillé avec Marie Curie.
Et ces ressources sont tellement précieuses qu'aujourd'hui, on entendra plusieurs archives exceptionnellement. Dans Science Chrono, on entendra deux autres témoignages de ces femmes du laboratoire de Marie Curie. Nathalie Pijarmico, il faut saluer votre travail d'enquête. Est-ce que ça a été une mince affaire de retrouver toutes les traces de ces femmes du laboratoire de Marie Curie?
Ça dépend pour lesquelles, hein. Quand il s'agit d'Hélène Gleditsch ou d'Elisabeth Ronin ou d'Harriet Brooks, ce sont des femmes qui ont quand même percé dans l'histoire des sciences, au moins dans leur pays, et pour lequel il existait déjà des biographies. Hein. Hélène Gleditsch, il y a une biographe qui s'appelle Anne Entling en Norvège, qui avait déjà fait sa biographie. Par contre, ce qui a été le plus difficile, c'est pour celles qui sont venues dans le laboratoire, soit comme étudiantes françaises, soit comme étudiantes étrangères, et qui n'ont pas poursuivi du tout de carrière scientifique, ou en France, qui en ont poursuivi, mais qui n'ont pas été jusqu'au professorat, en fait, qui n'ont jamais été nommées professeurs en France. Et pour celles-là, c'est vrai que ça a été vraiment une enquête, une véritable enquête.
Oui, puisque la place des femmes n'était pas garantie, et loin de là, en ce début du XXe siècle, on avait consacré un épisode entier de Science Chrono au mouvement des University Women aux États-Unis au début du XXe siècle. Donc, je vous renvoie à l'écoute de cette émission. Mais peut-être qu'on peut rappeler, Nathalie Pijarmico, quelle était la situation globale pour les femmes qui souhaitaient travailler dans le monde de la recherche au moment où s'est ouvert le laboratoire de Marie Curie. Quels étaient les prérequis, finalement, pour ces femmes qui voulaient faire de la recherche?
Bah, pour ces femmes qui voulaient faire de la recherche, si elles venaient de l'étranger, hein, c'était souvent des femmes qui avaient déjà de l'expérience dans leur pays en recherche scientifique, comme Hélène Gleditsch, elle le dit, elle était chimiste déjà. Par contre, pour les Françaises, c'était des étudiantes qui voulaient se préparer au doctorat. Donc, qui venaient souvent pour passer un diplôme d'études spécialisées en radioactivité. Il faut comprendre que plus on va avancer dans le temps de ce laboratoire avec Marie Curie, plus ce sera difficile pour elle d'entrer dans le laboratoire, mais surtout d'obtenir une place professionnelle après dans les sciences. C'est-à-dire que Marie Curie est arrivée à un moment de l'histoire de France où on a besoin de gens qualifiés sur le marché du travail. Et donc, on a besoin de ces étudiantes et de ces étrangers pour l'industrie chimique de pointe, etc., etc. À fur et à mesure que ce laboratoire Curie va grandir, va être reconnu, la faculté des sciences va aussi parallèlement accueillir de plus en plus de femmes. Et il faut comprendre qu'en 1930, par exemple, avant le décès de Marie Curie, 28% des étudiants sont des étudiantes à la faculté des sciences. Et donc là, elle commence, étant donné que le marché du travail se restreint, il va y avoir la crise économique, etc., elle commence à apparaître comme des concurrentes sur ce marché du travail. Donc elles vont être beaucoup moins acceptées dans les années 30 que juste avant la Première Guerre mondiale, en fait.
Et on va voir ensemble finalement quel portrait protéiforme, je le disais en introduction de cette émission, vous avez pu dessiner grâce à votre travail d'enquête. On va pas faire non plus une émission consacrée à Marie Curie. Notre collègue et ami Alexandre Morales l'avait fait brillamment dans sa série Avoir raison avec cet été sur France Culture. Vous aviez eu d'ailleurs l'occasion de participer à ces émissions, Nathalie Pijarmico. Mais peut-être qu'on peut se concentrer sur ce laboratoire-là constitué par Pierre et Marie Curie au début du XXe siècle. Quel était ce tout premier laboratoire, à quoi il ressemblait, quels étaient ses objectifs, ses moyens, quels étaient les enjeux finalement des recherches de Pierre et Marie Curie?
Faut comprendre que la découverte du radium et du polonium est de 98. Le laboratoire dont parle Hélène Gleditsch date de 1904, du moins 1904, Pierre Curie est nommé professeur en chaire à la Sorbonne. Il se doit donc de former des étudiants en tant que professeur. Et pour ça, il lui faut un laboratoire. Or, là où il est, rue Cuvier, il n'y a pas de laboratoire pour accueillir les étudiants. La faculté des sciences va l'agrandir et ce n'est qu'en février 1906 que le laboratoire est assez agrandi pour accueillir pour la rentrée 1906-1907 des étudiants. Jusqu'alors, il y avait 3-4 personnes, pas plus. Et malheureusement, Pierre Curie décède en avril 1906. C'est Marie Curie qui hérite de ce laboratoire.
Cet héritage, d'ailleurs, il se fait dans la difficulté. Hein. Ce n'est pas simple pour Marie Curie, ce n'est pas naturel qu'elle reprenne le flambeau à ce moment-là. Quelles ont été les stratégies finalement mises en place pour qu'elle puisse légitimement reprendre ce laboratoire ?
En fait, la faculté des sciences était tenue par des amis du couple Curie qui connaissaient très bien la valeur scientifique de Marie Curie. Donc, immédiatement après la mort de Pierre Curie, ils lui ont demandé de succéder à Pierre Curie. Alors, c'était au niveau administratif, c'était pas très simple parce que il fallait déclarer la chaire vacante. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont utilisé un stratagème vieux du début de l'université. Ils ont dit, on déclare pas la chaire vacante, on met une chargée de cours, c'est-à-dire Marie Curie. Comme ça, elle peut diriger immédiatement le laboratoire et c'est ce qui intéressait Marie Curie. Hein. L'enseignement ne l'intéressait pas trop tant que ça, mais par contre, garder la direction du laboratoire, ça l'intéressait. Mmh. Et donc, 2 ans après, quand ils vont déclarer la chaire de Pierre vacante, par tradition, c'est au chargé de cours, c'est-à-dire elle, que l'on donne cette chaire.
Alors, ce laboratoire de Marie Curie, donc on le rappelle, Pierre Curie décède brutalement en 1906. Ce laboratoire, il accueille finalement, c'est un peu une forme de pépinière, de fourmilière. Il y a plein de gens, plein de profils différents, plein de statuts différents. Quelle grande famille finalement de personnes on croise dans les couloirs de ce laboratoire de Marie Curie ?
La première grande famille de personnes qu'on voit dans ce laboratoire, à part un peu de personnel technique, scientifique, mais très peu en fait, ce sont ce qu'on appelle les travailleurs libres. Ces chercheurs étrangers, chercheurs et chercheuses étrangers, qui viennent d'autres laboratoires de la radioactivité dans le monde. Et par exemple, la première femme que Marie Curie a acceptée en 1906, hein, c'est Harriet Brooks. Elle venait directement du laboratoire de Rutherford.
Au Canada.
Il faut se rendre compte qu'à cette époque, il n'y avait que 4 grands laboratoires dans le monde qui étaient reconnus pour la radioactivité, pour les recherches sur la radioactivité. McGill au Canada avec Rutherford, Thomson à Cambridge, et puis après, ça sera Rutherford, et Stefan Meyer à Vienne. Et on voit les étudiants et les étudiantes qui passent d'un laboratoire à un autre.
Il y a cette dimension aussi, là elle vient, Harriet Brooks du Canada, tout à l'heure on entendait la voix de Hélène Gleditsch, norvégienne, cette dimension internationale aussi, elle est cruciale pour comprendre la richesse des personnes qui viennent contribuer et puis se nourrir finalement dans ce laboratoire.
L'apport de l'étranger dans un laboratoire est très important. Parce que chaque personne qui vient de l'étranger repartira dans son pays en louant les conditions de travail et les recherches qu'il a vues, qu'il a faites. Et ça participe complètement de la renommée d'un laboratoire au niveau international. Et plus un laboratoire est reconnu au niveau international, plus il obtient de subventions, notamment aussi de bourses de différents pays pour envoyer des étudiants. Donc, si le laboratoire reçoit qu'une dizaine de personnes la première année, dès la deuxième, on en est à 15, la troisième, on en est à 20, etc.
Comment va se développer ce laboratoire ? Puisqu'on entendait tout à l'heure dans la voix d'Hélène Gleditsch le fait que c'était un laboratoire qui était un petit peu exigu, que tout n'était pas finalement particulièrement commode. Comment on va progressivement, ce laboratoire va-t-il prendre de l'ampleur jusqu'à devenir l'Institut du Radium ?
En fait, c'est avec son déménagement, comme elle l'a dit, en 14, hein, 14-15. Malheureusement, pendant la Première Guerre mondiale, le déménagement va durer un petit peu longtemps. Mais effectivement, quand ils vont quitter la rue Cuvier, où ils ont quelques pièces disparates, ils vont arriver dans cet Institut du Radium, hein, dans le pavillon Curie. C'est Marie Curie qui a voulu le nom de Pierre Curie, de l'Institut du Radium. Et là, ils ont de la place. Ils ont de la place pour accueillir bien plus d'étudiants. Ceci étant, dès 1923, donc ça fait vraiment que, on va dire, 5 ans que le laboratoire fonctionne réellement, hein, après-guerre, Marie Curie demande l'extension de ce laboratoire. Donc en 1925, il y a encore un bâtiment de construit. Et puis après, il va y avoir des annexes, à Arcueil, à Orsay, etc. Et donc, toutes ces annexes, tous ces bâtiments permettent d'accueillir de plus en plus de chercheurs, d'étudiants et de personnel.
Et de chercheuses confirmées. On va continuer à entendre ces voix des femmes du laboratoire de Marie Curie. Écoutons une nouvelle archive. Cette fois, on entend la chimiste nucléaire hongroise Erzsébet Rona, qui, elle, a connu l'Institut du radium. Elle était interrogée par Paul Bordry en 1967.
Mademoiselle Rona, vous connaissez ce bureau ?
Oh oui, je connais ce bureau très bien. J'ai passé beaucoup d'heures avec Madame Curie ici.
En quelle année êtes-vous venue pour la première fois ?
27. L'année 1927.
Et vous étiez étudiante ?
J'étais après mes études. J'avais déjà un doctorat. Et je suis venue de l'Institut de Vienne, de Radium de Vienne, pour apprendre quelques techniques de Madame Curie, celle de faire des sources très fortes du polonium. Elle m'a enseigné beaucoup de choses, pas seulement ça.
Voilà, Nathalie Pijarmico, la voix d'Erzsébet Rona. Qu'est-ce que vous retenez dans ce travail, dans ce propos? Moi, ce qui m'intrigue, c'est quand même que là, tout d'un coup, on met un peu les mains dans le cambouis. On comprend que dans ce laboratoire, on faisait des tâches et des manipulations qui étaient d'une très grande complexité.
Oui, oui. Là, en fait, c'est surtout auprès de Irène Joliot-Curie hein, qu'elle va se former, effectivement, à purifier au maximum des sources de polonium. Donc, déjà au niveau sécurité pour sa santé, c'est pas forcément l'idéal. Hein. Mais elle est vraiment envoyée par un laboratoire, le laboratoire de Vienne, Stephen Meyer, qui est un des premiers laboratoires de radioactivité, pour apprendre une technique. Et cette technique, elle va après l'appliquer d'ailleurs à Oak Ridge pour la purification des sources de polonium qui vont servir au projet Manhattan.
Et ça, d'ailleurs, Erzsébet Rona sera la seule femme scientifique à faire partie de ce projet Manhattan.
En tant que scientifique extérieure, du moins, oui. Oui, apparemment, il y a eu d'autres femmes, beaucoup de femmes techniciennes, scientifiques, mais dont on n'a pas forcément reconnu le statut de scientifique.
Ouais. On n'a pas trop évoqué encore pour l'instant, Nathalie Pijarmico, le fait que, voilà, on consacre notre émission aux femmes du laboratoire de Marie Curie, au fait que Marie Curie a accueilli, je crois, 45 chercheuses, étudiantes, scientifiques dans son laboratoire au cours de la période où elle, durant laquelle elle a dirigé ce laboratoire de 1906 à sa mort en 1934. Est-ce que dans la démarche de Marie Curie, il y avait une volonté de féministe, finalement, d'ouvrir plus que d'autres laboratoires, d'ouvrir ce laboratoire aux femmes?
Non, il n'y avait pas cette volonté. Marie Curie agissait exactement comme ses collègues masculins, c'est-à-dire qu'il fallait que le laboratoire cherche, trouve, soit renommé, et pour ça, il fallait les meilleurs éléments. Donc, en fait, elle sélectionnait ses étudiants en fonction de qui les recommandait déjà. Parce que c'était important d'avoir aussi de bonnes relations avec les grands chercheurs internationaux. Elle les choisissait aussi en fonction de leurs compétences, de leurs diplômes et de ce qu'ils souhaitaient faire dans le laboratoire Curie. Donc en fait, elle avait exactement le même mode de sélection que ses collègues, peut-être même avec un biais cognitif qu'on pouvait avoir à l'époque sur les capacités masculines, hein, supérieures à celles des femmes, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait beaucoup plus de candidatures féminines, peut-être, que dans d'autres laboratoires, parce que beaucoup de femmes pensaient qu'elles seraient mieux accueillies dans un laboratoire où il y aurait une directrice que dans un laboratoire où il y aurait un directeur. Donc, elle a peut-être eu plus de choix de femmes que dans d'autres laboratoires. Mais ceci dit, elle avait moins de femmes en pourcentage que ce qu'il n'existait d'étudiante à la faculté des sciences et ce que Stephen Meyer avait comme femme au laboratoire de Vienne.
Dans son institut du radium à Vienne. Alors on va écouter une troisième archive puisque vous parlez de ces chercheuses, de ces étudiantes qui vont vers le laboratoire de Marie Curie parce que Marie Curie le dirige. On écoute cette archive, la voix d'Hélène Tsavitsiano qui deviendra Hélène Emmanuel, interrogée toujours en 1967 par Paul Bordry.
Mais alors revenons-en à votre première rencontre avec Marie Curie. Quelle a été votre impression dès que vous avez vu cette femme qui était âgée, puisqu'elle était à un an avant sa mort?
Oui, eh bien, j'avais le trac. J'étais très impressionnée de penser que j'étais présentée à une personne aussi importante, aussi savante, et j'étais un peu paralysée.
Elle s'en est aperçue?
Elle a été d'emblée tellement gentille, tellement d'un accueil tellement chaud, je peux dire, que d'un seul coup mon trac a disparu et je me suis sentie en pleine confiance parce qu'elle avait un ton maternel pour me parler, et ce qui me mit tout à fait à mon aise.
Voilà Nathalie Pijarmico, la voix d'Hélène Emmanuel. Qu'est-ce que vous retenez de cette prise de parole-là?
Je trouve que cette prise de parole-là est très touchante parce qu'en fait, c'est une femme qui va pas longtemps connaître Marie Curie, qui arrive toute jeune de Grèce, mais elle est étudiante. Elle arrive pour étudier à la Sorbonne. Elle est inscrite à la Sorbonne, contrairement à Runa et Gleditsch. Moi, Gleditsch va s'y inscrire aussi, mais contrairement aux travailleurs libres, en fait. Elle est étudiante et elle va être présentée à Marie Curie l'année d'avant son décès. Donc, Marie Curie est devenue une icône. Marie Curie, c'est celle qui est revenue des États-Unis avec un gramme de radium en 21, avec un autre gramme de radium en 29. C'est celle qui est connue, qui fait partie de l'Académie de médecine. Donc, et c'est amusant d'imaginer cette jeune, toute jeune immigrée qui arrive et qui est présentée effectivement à cette femme qui, d'après les autres témoignages, avait quand même un abord, au premier abord, très sévère, très noir. Donc, on comprend aussi le trac qu'elle a pu avoir au premier regard.
Mais ce qu'on entend aussi dans cet archive, c'est qu'un an avant sa mort, Marie Curie est déjà malade. Elle continue de travailler et d'avoir cette volonté de transmettre à de toutes jeunes chercheuses et de chercheurs qui, voilà, son savoir et à réaliser finalement cette mission de transmission-là.
Oui, la Marie Curie de 1933, c'est pas du tout la Marie Curie de 1907 qui a connu Hélène Gleditsch. La Première Guerre mondiale est passée par là. Elle a découvert qu'elle pouvait être utile à l'autre directement en son contact. Et donc, c'est une Marie Curie qui, de plus en plus, va prendre soin de ses étudiants et de ses étudiantes. Et je crois que c'est Zazie Viano qui raconte qu'elle avait absolument voulu, Marie Curie, que quelqu'un ramène Zazie Viano en février 34, pendant les manifestations de l'extrême droite, parce qu'elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc c'est vraiment une personne qui est par la proximité, hein, parce que son laboratoire il est vraiment à côté de celui des étudiants, contrairement à Rue Cuvier, et par la découverte sur elle-même d'avoir ce pouvoir sur les étudiants, leur donner envie. Voilà. C'est une grand-mère, quoi, en fait, à cette époque-là.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, Nathalie Pijarmico, vous disiez Marie Curie, c'est déjà une icône en 1933-1934. Comment votre travail de recherche sur ces femmes du laboratoire de Marie Curie vous a amené finalement à déconstruire un peu ce cliché de l'icône de Marie Curie, femme scientifique isolée dans un monde d'hommes? Comment cette figure-là, même ce statut d'icône-là, a d'une certaine façon desservi la cause des femmes en sciences?
Ben c'est justement en travaillant sur ces femmes. En fait, quand je suis arrivée au musée Curie, j'avais beaucoup déjà travaillé sur les femmes médecins. Travailler sur Marie Curie, étant donné l'image qui était véhiculée d'elle, bah, ça donnait pas très envie parce que on travaillait pas sur de l'humain, on travaillait sur quelqu'un de déifié quelque part. Et donc, j'ai voulu travailler sur les femmes scientifiques qui ont travaillé avec elle. Et c'est en travaillant sur elle que j'ai découvert une autre Marie Curie. qui n'apparaissait absolument pas dans les biographies que l'on peut lire régulièrement, biographies qui sont souvent d'ailleurs qu'une répétition et qu'une réécriture de celle d'Ève Curie. Donc, à part, il y a eu de très bonnes biographies, hein, Suzanne Quinn, Soraya Boudia, etc. Mais les plus connues, celles qui ont percé, sont des biographies qui montrent une femme qui, comme dit Ève Curie, est une légende en elle-même, qui meurt, la mission accomplie, sans avoir accepté les honneurs, les richesses. Bon, c'est un peu trop, un peu trop, et ça donne pas trop envie aux jeunes filles de science, quand elles ont que ce modèle-là, de se dire qu'un jour elles vont devenir des Marie Curie, c'est pas possible. Donc il fallait aussi donner d'autres modèles aux jeunes filles et montrer que Marie Curie n'était qu'un arbre qui cachait toute une forêt, et qu'il y avait, même parmi ces étrangères, beaucoup des étudiantes étrangères de Marie Curie sont devenues premières femmes professeurs dans leur pays. Donc, elles aussi sont des pionnières. On les a occultées de notre roman national, en fait.
Et cette forêt, elle est protéiforme, diverse aussi dans les parcours, les carrières scientifiques. Hélène Zavitiano, par exemple, pour ne parler que d'elle, puisqu'on l'a écoutée en dernier, participe, elle, de son côté, à la construction de la première pile atomique baptisée Zoé au commissariat à l'énergie atomique, au CEA, quelques années après ses études. Quel cliché aussi sur les femmes de science vous avez pu déconstruire grâce à cette enquête ?
Ce qui est assez amusant, c'est que Marie Curie apparaissait vraiment comme une femme d'exception pour avoir mené sa carrière tout en ayant été mariée, veuve, avec des enfants. Et partout vous verrez écrit, Marie Curie a consacré sa vie à la science, a sacrifié sa vie à la science. Et Marie Curie écrivait elle-même, en fait, que ce n'était absolument pas le cas, qu'elle avait fait ce qu'elle voulait. Et en fait, c'est quand on fait ce qu'on aime faire, qu'on peut être bon. Et donc, ces femmes, elles ont suivi un peu ce parcours-là, c'est-à-dire que quand elles se sont mariées majoritairement, elles ont eu des enfants, elles ont ou pas continué leur carrière, ce ne sont pas celles qui ont percé ne sont pas forcément des femmes qui n'ont pas eu de vie privée, parce que toute vie privée était impensable. Si on voulait réussir dans les sciences, il fallait faire que des sciences.
Donc là, vous avez pu redonner un peu d'espoir. Et puis ce qui est intéressant, en fait, finalement, c'est que cette dimension sacrificielle, elle est commode pour éloigner les femmes des sciences pendant encore un bon moment. Merci beaucoup à vous, Nathalie Pijarmico. Je rappelle le titre de votre livre « Les femmes du laboratoire de Marie Curie » paru aux éditions Glyph et disponible donc très prochainement dans une édition revue et augmentée, parce que cette publication, qui date de 2013, vous a amené à faire de nouvelles découvertes sur d'autres femmes scientifiques qui ont travaillé aux côtés de Marie Curie. Donc on a hâte de lire cette version revue et augmentée. Merci encore à vous.
Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli. Dnem z lusterami dwoma.
Jestem kobietą, traduction, je suis une femme, par le groupe polonais Manam. C'est la pépite à la fois mélancolique et radioactive dénichée par Hélène Trigueros aujourd'hui dans Sciences Chrono sur France Culture. Après avoir fait le portrait de quelques-unes des femmes du laboratoire de Marie Curie, il est temps de remonter encore plus loin dans le temps, à la préhistoire, et de se demander quelle palette de couleurs utilisaient les humains du paléolithique. On va mettre un peu de pigment dans nos vies.
Sciences Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Deux études parues à quelques mois d'intervalle font état de la découverte surprenante de pigments bleus datant de la préhistoire, provenant pour l'une de sources végétales et pour l'autre de sources minérales. Cette surprise archéologique nous invite à faire la lumière sur les pigments au cours de ces périodes très anciennes et à nous interroger sur la rareté, voire la quasi-absence de ce bleu, dans la palette des préhistoriques maîtrisant comme personne les ocres jaunes ou rouges et les noirs. Au-delà des preuves spectaculaires de maîtrise des pigments par les humains de la préhistoire, que l'on peut contempler dans les grottes ornées, quels autres rôles ont pu jouer les pigments dans le quotidien de ces humains du paléolithique? Que nous dit l'archéologie et une discipline comme l'archéométrie sur la maîtrise technique requise pour la fabrication de ces pigments, mais aussi sur la connaissance des environnements géologiques par les humains de la préhistoire? On fait aujourd'hui du neuf avec du bleu et on ouvre de nouvelles pistes vers les couleurs du paléolithique. Mathieu Lebon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéomètre, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle sur le site du Musée de l'Homme. Merci beaucoup de venir nous éclairer aujourd'hui sur les usages des pigments à la préhistoire, mais aussi sur la diversité des recherches qui sont consacrées à ces pigments et comment ces recherches nous éclairent d'une façon plus subtile sur les pratiques techniques et culturelles des humains du paléolithique. On va le voir, se consacrer à l'étude des pigments, c'est parfois chercher une aiguille dans une botte de foin, tant ces traces de couleurs du passé lointain sont ténues. Mais avant cela, Mathieu Lebon, j'aimerais qu'on parle un peu de votre métier. Je viens de le dire, vous êtes archéomètre. En quoi consiste cette science méconnue du grand public, l'archéométrie, qui a émergé, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 80.
Oui, exactement. L'archéométrie, c'est une sous-discipline, finalement, de l'archéologie, ou si on le voit d'un autre côté, aussi une sous-discipline de la physique et de la chimie. Et en fait, dans cette discipline, on va combiner des approches classiques de la physico-chimie, de la géochimie, de la biochimie, pour les appliquer à des matériaux archéologiques, dans le but, et ça c'est vraiment important, de répondre à des questionnements archéologiques. Et donc on va essayer de caractériser la matière à différents niveaux, au niveau macroscopique, microscopique, au niveau de la structure, au niveau de la composition moléculaire, minéralogique, et puis un peu plus loin même, au niveau de la composition en atomes, la composition élémentaire, voire la composition isotopique.
Quels sont les outils que vous allez utiliser au quotidien? J'imagine que si cette science a émergé dans les années 1980, c'est qu'on a eu besoin de certaines innovations, outils particuliers pour aller percer à jour les mystères de cette matière subtile.
Oui, alors, en fait, on va utiliser classiquement les méthodes de la physique et de la chimie, mais qu'on va adapter à nos matériaux, puisqu'on a des matériaux qui sont quand même assez hétérogènes dues à l'action humaine, à leur origine naturelle, et puis à leur altération au cours du temps. En plus, on a des matériaux qui ont une valeur patrimoniale qui est assez conséquente, et ça va nous obliger à adapter nos techniques pour minimiser la taille des prélèvements, voire même dans certains cas ne pas faire de prélèvements du tout, faire de l'analyse non invasive, et dans certains cas même déplacer nos instruments sur le lieu de collection, sur le site archéologique, par exemple pour analyser des pigments d'une peinture d'un site préhistorique qu'on ne peut pas prélever.
Alors ces pigments justement, puisque ce sont parmi les matériaux que vous étudiez en tant qu'archéomètre, est-ce qu'il y a un regain d'intérêt pour ces matériaux collectés pendant longtemps par les archéologues, mais finalement qui ont été peu étudiés? Alors on peut se poser une première question, pourquoi est-ce que les pigments ont peu été étudiés et pourquoi y a-t-il aujourd'hui un regain d'intérêt pour ces pigments?
Alors, déjà, il faut définir de quoi on parle. Oui. Exactement, vous l'avez dit tout à l'heure, on parle de pigments pour le paléolithique essentiellement d'origine minérale, avec des oxydes de fer, les jaunes et les rouges, goethite ou hématite, et puis pour le noir, essentiellement du charbon de bois ou des oxydes de manganèse. Et en fait, ces matériaux, ils ont été détectés assez tôt hein, dans l'histoire, dès la fin du 19e, début 20e, juste après la reconnaissance de l'ancienneté de l'art préhistorique. Des chimistes vont s'emparer de ces matériaux et déterminer leur nature, oxyde de fer, oxyde de manganèse. Et sauf qu'à l'époque, en fait, il faut quelques grammes de matière pour analyser. Et ça a bloqué les analyses pendant très longtemps, et finalement, il faut attendre les années 90, avec le développement de la microscopie électronique à balayage, à transmission, les instruments dédiés à l'analyse du patrimoine, par exemple l'accélérateur Aglaé, qui est dans les sous-sols du Louvre, pour pouvoir s'emparer de ces matériaux.
Parce que parfois, les traces sont pas forcément évidentes, elles sont aussi ténues, et là aussi, ça implique des outils d'observation qui sont de pointe pour pouvoir aller chercher ces petits éléments discrets.
Oui, voilà, elles sont ténues. Hein. Une couche de pigment sur une peinture préhistorique, c'est quelques microns d'épaisseur, des centièmes de millimètres, et du coup, on va être contraint de prélever et de faire des analyses avec des microscopies poussées, ou des instruments qui vont permettre de cibler au sein des couches d'altération, au sein sur le support, de très très fins résidus.
On parlait tout à l'heure, vous évoquiez le fait que ces pigments étaient principalement d'origine minérale pour la préhistoire, avec ces teintes ocre, donc jaune ou rouge, et ces teintes noires. Est-ce que il y a des teintes qui sont issues finalement de sources végétales connues pour cette période du paléolithique? Parce que bon, bien sûr, on le rappelle, le végétal c'est une matière organique, donc c'est compliqué à conserver. Est-ce qu'on a des traces de ça?
Oui, alors il y a des traces qui ont été toutes découvertes vraiment très récemment, puisqu'en fait les premiers de la matière organique, des pigments de nature organique qui sont finalement les mêmes qu'on va retrouver un petit peu plus tard au paléolithique, notamment des pigments à base de garance, de la garance qui a été mise en évidence dans des niveaux archéologiques d'à peu près 15 000 ans en Israël, dans la grotte de Kebara. C'est de la garance des teinturiers qui a été utilisée aux époques modernes. Et ça, c'est une découverte de mémoire de 2022. Donc c'est très très récent. Ça montre finalement qu'on a aussi maintenant les moyens analytiques d'aller un peu plus loin et d'analyser ces matériaux. Donc on est sur des pigments rouges.
Et on va voir aujourd'hui que voilà, ces moyens mis à disposition par l'archéométrie permettent finalement d'élargir un peu notre palette de couleurs pour ces périodes préhistoriques. On va essayer de faire un petit peu du général au particulier, de l'évident vers le moins évident en matière d'utilisation de ces pigments à la préhistoire. On va partir de l'évidence, l'art rupestre. Quelles sont les traces les plus connues, les plus anciennes, peut-être déjà dire que c'est pas quelque chose de récent dans l'histoire de l'humanité. Enfin, ça remonte à très très longtemps, ces usages de pigments par les espèces humaines hors sapiens.
Oui, alors si on reste sur l'expression la plus connue, picturale, on va être sur des premiers sites autour de 45 000 ans en Asie du Sud-Est, et puis avec l'arrivée d'hommes modernes en Europe, un gros développement. Mais en fait, on s'est aperçu depuis longtemps que des matières colorantes se trouvaient dans des niveaux archéologiques, en dehors de toute expression symbolique, dans des niveaux datés de 100 000, 200 000, voire 300 000 ans. Et donc ça, c'est quand même assez ancien. Dès les années 80, il y a pas mal de publications là-dessus, mais c'est finalement un matériel qui va être un peu laissé de côté. On voit que c'est un matériel assez important, mais finalement, les archéologues ne s'emparent pas forcément de la problématique, qui est quand même en fait assez complexe. Et puis, donc récemment, avec le renouvellement des techniques et puis l'avènement de nouvelles méthodologies d'études et notamment des études un peu plus intégratives autour des années, à partir des années 80, enfin à partir des années 2000 et qui se concrétisent vraiment, vraiment vers 2010, on a un certain nombre d'archéologues qui vont reprendre des anciens corpus archéologiques, de fouilles qui ont été fouillées il y a plus de 40 ans, pour leur appliquer les nouvelles techniques de fouilles.
C'est ça qui est hyper impressionnant, c'est qu'il y a en ce moment tout un travail de réexamen de collections archéologiques où là, on va aller chercher la petite bête, le pigment en question.
Voilà, et on fouille quasiment peu sur ces programmes, on réétudie l'ancien matériel pour finalement essayer de réintégrer ce matériel au sein de nos connaissances modernes, y compris pour essayer d'aller un peu plus loin sur les chaînes opératoires, notamment dans des contextes où on n'a pas forcément que de l'expression symbolique, puisqu'il y a énormément d'applications finalement et d'utilisations, on s'en rend compte depuis une dizaine d'années, par la combinaison des approches ethnographiques, archéologiques et expérimentales.
Parlons justement de ces autres utilisations que des utilisations à des fins picturales, artistiques. Comment on peut déterminer justement d'autres fonctions qu'auraient pu avoir ces pigments? Sur quels autres supports que des parois de grottes on va pouvoir trouver des pigments? Et quel sens on va donner à ces pigments-là?
Alors, les approches, comme je l'ai dit, en fait, elles partent du matériel archéologique. Elles vont poser un contexte. Et à partir de ces échantillons archéologiques, on va essayer d'émettre des hypothèses, et interroger les corpus, disons les études ethnographiques, d'autres corpus archéologiques, et puis éventuellement l'expérimentation pour tester les processus et éventuellement les valider. Et à partir de là, en fait, on a pu mettre en évidence que les matières colorantes, et notamment les matières colorantes rouges, qui sont très abondantes à la fois dans l'environnement et sur les sites archéologiques, sont vraiment au centre de nombreuses activités, au cœur des activités quotidiennes de ces populations.
Quelles activités, par exemple ?
Alors, elles sont nombreuses. on peut commencer par des applications sur la peau. Et par exemple, dans le registre ethnographique, on a un certain nombre d'exemples. On le voit encore actuellement dans des populations qui ont des modes de vie assez traditionnels, par exemple au nord de la Namibie, les Himba, qui vont utiliser un beurre clarifié mélangé à de l'ocre, de l'hématite, pour s'enduire le corps et se colorer le corps. Donc ça a été étudié et effectivement ça a un impact symbolique très 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 fort. Hein. Mais aussi dans les interviews qui ont pu être réalisées avec ces membres des populations, l'aspect protection ressort. Et des collègues, Ryan Rifkin, Francesco Derico, se sont intéressés à l'origine de cette protection et ont testé la protection par rapport aux UV du soleil et par rapport aux insectes, et notamment les moustiques. Ils ont appliqué les mêmes protocoles que pour tester une crème solaire ou des répulsifs pour les insectes. Et en fait, ils ont pu montrer que ce mélange, hein, beurre clarifié avec un ocre de très très fin, pouvait être équivalent à un indice presque de 15 en crème solaire. Et puis, pour ce qui est de répulsifs, des choses qui se rapprochent des répulsifs qu'on peut acheter en pharmacie actuellement. Donc on comprend que dans une zone tropicale, avec du soleil et des insectes, et notamment des moustiques vecteurs de maladies, ça peut avoir un intérêt assez conséquent.
A retrouvé pour le paléolithique européen, notamment, des traces de peinture corporelle? Alors bien sûr, la peau n'est plus là, mais sur des vestiges fossiles humains, des traces de peinture et de pigments?
Alors, on en a dans des contextes de sépulture, au paléolithique supérieur. Sépulture et funéraire, on va retrouver quasiment systématiquement, en tout cas avec une très forte fréquence, des pigments rouges.
De l'ocre.
Et par contre, on a d'autres indices aussi qui vont nous aider. Bien évidemment, la peau n'est plus conservée, mais on a tous les outils, artefacts et objets de parure, notamment, qui ont été en contact avec cette peau et qui ont pu s'imprégner de ce colorant rouge. Et ça, on le trouve sur des sites archéologiques quasiment à 100 000 ans, voire même un peu plus, en Afrique du Nord, en Afrique australe, le site d'An-Nasra ou de la grotte de Tafoural, par exemple, au Maroc. Donc ça, c'est des indices très importants et qui nous permettent d'avancer aussi sur notre compréhension de l'expression symbolique via le corps et cette peinture qui est appliquée sur le corps.
Il y avait cette potentielle expression symbolique de peinture corporelle avec ces pigments, mais il y avait aussi une fonction utilitaire dans les pigments, dans le travail des peaux qui revêtaient ces humains qui étaient dans ces sépultures. Alors, quels étaient, moi, quand j'ai préparé cette émission, je pensais pas que les pigments puissent avoir une telle variété d'utilisation possible. Comment un pigment va-t-il aider à la préparation d'une peau?
Et bien là encore, c'est l'expérimentation qui permet de mieux comprendre le phénomène en collectant des peaux et en les travaillant à la manière similaire de ce qu'ont pu faire les préhistoriques, avec des outils similaires et des matériaux similaires. Et on va étudier les processus. Et en fait, on se rend compte que l'ocre, l'hématite, va avoir tendance à avoir un rôle antiseptique, donc limiter le développement de bactéries, et puis se complexer avec le collagène pour assurer un bon maintien de l'applicabilité. Et on a des choses qui sont vraiment très bonne par rapport à des tanins qui ont pu être utilisés à des époques plus récentes.
Est-ce qu'il y a d'autres utilisations, du coup, qui sont moins évidentes des pigments à la préhistoire?
Alors, sur la peau, on a aussi l'utilisation des oxydes de manganèse qui ont pu être proposés en décoration, notamment avec des travaux sur le site de Pêche de Laz. Donc là, on est autour de 50 000 ans, donc chez Néandertal. Et des hypothèses sur des dessins, l'utilisation de dessins sur la peau, qui ont été un peu revus aussi par Marie Soressi il y a quelques années, qui émet l'hypothèse de l'utilisation pour allumer le feu, puisque les oxydes de manganèse, et là encore c'est l'expérimentation qu'il montre, ces oxydes de manganèse utilisés sur ce site en tout cas ont la capacité à faciliter l'allumage en faisant baisser la température à laquelle le bois va s'enflammer.
Puisque vous parlez de Néandertal, c'est intéressant parce qu'il y a une étude parue fin octobre 2025 dans Science Advances 26 qui fait état du travail de l'ocre par des Néandertaliens en Crimée, avec des pierres taillées en pointe que les chercheurs appellent des crayons d'ocre. Alors voilà, là on est aussi chez Néandertal, cousin de Sapiens. C'est pas du tout une prérogative de Sapiens d'utiliser des pigments. Est-ce que Néandertal, lui aussi, était un grand amateur de couleurs?
Alors, un grand amateur, je n'irai pas jusque-là, c'est difficile à dire. En tout cas, les témoignages archéologiques auxquels nous avons accès sont plus limités que pour Homo Sapiens. Néanmoins, on le voit, et on le voit de plus en plus avec... aussi des sites néandertaliens de plus en plus repris au niveau des études, où on a des matières colorantes qui sont exploitées, peut-être un peu plus de noir que de rouge, mais ça va plutôt dans une phase assez tardive de présence des néandertaliens, et notamment le Châtel-Péronien, donc qui fait la transition avec l'arrivée de l'homme moderne en Europe, avec par exemple le site d'Arcy-sur-Cure qui a été repris. Mmh. Et donc là, les études dont vous faisiez référence en Crimée sont beaucoup plus anciennes. Elles sont datées de 70 000 ans. Mmh. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que les chercheurs avancent aussi le fait qu'un certain nombre de tracés ne sont pas que utilitaires pour produire la poudre, mais sont également symboliques.
Alors Mathieu Lebon, il faut aussi rappeler que fabriquer des pigments, finalement, ça réclame un savoir-faire assez complexe. Il suffit de regarder par exemple les blasons dans la grotte de Lascaux pour se rendre compte que là, les préhistoriques avaient vraiment... penser une composition de leur matière première picturale. Quels sont ces savoir-faire à maîtriser finalement pour préparer des pigments différents?
Alors finalement, pour préparer les pigments, c'est relativement simple et c'est même un problème pour nous parce que ça évolue très peu au cours du paléolithique. En gros, pour préparer un pigment, on va le broyer ou la braser sur une surface rugueuse pour obtenir une poudre. Par contre, c'est l'utilisation de cette poudre derrière qui va être parfois complexe. Typiquement, dans le cas dont vous évoquiez à Lascaux, hein, c'est les travaux notamment de ma collègue Émilie Chalmin à Chambéry, qui, pendant sa thèse au Louvre, a pu travailler sur ces figures de quadrilatères, en l'occurrence la noire, qui sont au pied du panneau avec les deux vaches. Et elle a pu montrer qu'en fait, ces pigments noirs qui nous apparaissent noirs, en fait, ont des compositions différentes. Donc, une même unité stylistique avec une recherche de matériaux différents. Soit pour des tests ou pour une origine qui ne nous est pas comprise, mais en tout cas, il y a une vraie recherche au-delà de l'aspect artistique.
Comme une palette, quoi.
Comme une palette, voilà, ouais. Exactement. On teste la palette, on prépare les matériaux, peut-être avec aussi des ajouts de charge, des mélanges, ça s'était montré aussi à Nio par Claude et Walter notamment, Philippe Walter, avec des recettes différentes qui peuvent évoluer à différents moments.
Alors, on va parler, bien sûr, dans un instant des bleus. On a une dernière fonction, moins évidente aussi, qui est celle des pigments à la préhistoire, c'est celle de liant dans des cols.
Voilà, dans des cols d'emmanchement. Et donc, ça, c'est des indices aussi qu'on va retrouver de façon assez ancienne et qui montrent la complexité, en fait, de l'utilisation de la poudre qui est faite. Puisque dans des cols d'emmanchement, donc l'idée, c'est de fixer un outil, du silex ou une autre roche, avec un manche en bois, et on peut le faire avec des résines d'arbres, des bitumes, mais sur certains sites, on voit en plus de l'ocre, et ça, c'est un phénomène qui apparaît dès 70 000 ans en Afrique du Sud, mais on en a des indices aussi en Afrique du Nord, peut-être de façon un peu plus ancienne. Et donc là, en fait, l'expérimentation a montré que en faisant ça, on conférait une plus grande dureté à ces matériaux, avec la possibilité de le ramollir en le chauffant, de le mettre en forme chaud autour de la pièce, et au refroidissement, on a quelque chose de vraiment très... Donc là, c'est très complexe en termes de conception au niveau technique pour maîtriser les matériaux qui sont ajoutés, mélangés, et qui nous permettent de revoir un petit peu notre idée de cet homme préhistorique archaïque, en fait.
C'était un peu chimiste aussi, voilà. À sa façon. Alors, je l'évoquais en introduction de cette émission, Mathieu Lebon, il y a deux découvertes qui sont assez récentes, qui datent de 2025, toutes les deux, et qui font état de découvertes de pigments bleus pour ces périodes paléolithiques. On va parler peut-être de l'étude parue en septembre 2025 dans la revue Antiquity, qui fait état de présence de traces d'azurite, donc une pierre présente dans les collections du site de Mülheim-Dietesheim. Cette pierre, elle présente donc des traces d'un résidu bleu qui date d'il y a 13 000 ans. Pourquoi est-ce que c'est autant que ça une surprise? Et finalement, qu'est-ce qu'on se disait jusqu'à présent concernant l'émergence du bleu, qui est une couleur assez rare?
Alors, effectivement, au paléolithique, on considère qu'on a uniquement du rouge, du noir, du jaune. Le bleu est très anecdotique. En fait, finalement, le bleu, on ne le retrouvait pas jusque très récemment. Et n'était présent que pour les périodes qui suivent le néolithique et puis se développer de plus en plus avec le proto-historique et puis l'antiquité, effectivement. Et là, sur un bloc de grès qui a possiblement servi comme meule ou réceptacle de ce matériau, quelques traces qui font quelques millimètres de
il faut bien les voir.
Je vous encourage à essayer, vous trouverez les photos facilement sur le web. Voilà, c'est des traces très ténues. Oui. Et qui ont été, par contre, là, pour le coup, largement étudiées avec plus de 6 techniques qui ont été mises en œuvre, de l'analyse élémentaire, de l'analyse minéralogique, et qui ont montré que c'était de l'azurite, un carbonate de cuivre, qui a été utilisé. Alors, ils ont même fait de l'analyse des isotopes du plomb pour montrer que c'était compatible avec des sources assez locales, une quinzaine de kilomètres. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une des premières preuves de l'utilisation d'un pigment minéral bleu au paléolithique.
Et vous le dites, Mathieu Lebon, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs, ils ont mis en évidence le fait qu'à la même époque, les humains extrayaient deux autres minerais dans la même région, du silex et de l'ocre rouge. Ça veut dire que chimistes, artistes, pêcheurs, chasseurs, cueilleurs, ils étaient aussi géologues, les paléolithiques,
c'est ce que alors, ça veut dire. Alors les
mineurs.
Oui, alors ça c'est pas l'ocre qui nous le dit. Hein. Les collègues qui travaillent sur les silex, ils le savent depuis un bon moment. Oui, ils connaissaient très 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 bien leur territoire. Ils avaient une capacité à aller faire de l'inventaire géologique, comme on peut le faire nous actuellement dans le cadre de nos programmes de recherche, mais d'être capable de bien connaître leur territoire, d'aller spécifiquement chercher le matériau, je pense, dont ils avaient besoin.
Alors ces chercheurs, ils vont plus loin et disent que l'azurite était utilisée pour des activités archéologiquement invisibles qui ne se conservent pas, comme la décoration des corps ou la teinture des tissus. C'est déjà aller trop loin dans l'interprétation ou bien c'est entendable et on attend la suite pour de plus grandes preuves?
C'est une piste de discussion. Moi, je ne serais pas allé jusque-là. Disons, on parle de traces très ténues. On parle même de ruptures culturelles. Donc, on parle de quelques traces sur un bloc. Là où c'est intéressant, c'est que ça nous amène à nous poser la question de l'origine de ce pigment bleu. Pourquoi on le trouve là, sur ce site? Est-ce que c'est le seul site? Peut-être que d'autres assemblages archéologiques ont été écartés. On le voit aussi par la découverte sur d'autres sites de pigments bleus organiques qui ont été découverts. Là aussi, il y a une combinaison du fait que on recherche ces matériaux parce qu'on a les moyens analytiques pour le faire et que si on a des premières découvertes, on va pouvoir être amené à se dire tiens, sur d'autres corpus, peut-être qu'on a le même type de matériaux. On parle parfois de corpus anciens, on peut avoir du mal à distinguer quelque chose de récent, des contaminations récentes d'un fait archéologique. Et c'est vrai que quand on voit du bleu sur un... On pourrait plus facilement penser à de l'encre qu'à des pigments. Là, pour le coup, c'est des pigments naturels, minéraux, donc ouais. ça ressort bien.
Parlons justement de cette autre étude parue dans la revue PLOS ONE en mai 2025, qui fait état, quant à elle, de broyage délibéré de feuilles de pastel des teinturiers. En latin, je le donne pour nos amis botanistes, Isatis tincturia L. Et là, ça date d'il y a environ 33 000 ans. Là, c'est dans une grotte en Géorgie. Et c'est une plante donc non comestible qui contient de l'indigo. Que nous dit cette étude et pourquoi elle aussi, elle est surprenante pour ce paléolithique et ce bleu?
Alors, elle nous dit déjà que c'est du pigment bleu, ce qui est déjà très rare. Alors, pour aussi un peu préciser, on parle là de microfibres qui font 25-30 microns de taille.
Extrêmement ténues.
Extrêmement ténues, qui ont été trouvées grâce à des nouvelles méthodes qui permettent de mieux extraire les résidus organiques de roches et d'outils, en fait, en roches.
Donc là, on étudie vraiment, finalement, les dépôts moléculaires à la surface
de ces roches. Oui, voilà. On est à l'échelle de la cellule de feuilles.
Ouais.
Et donc, ces pigments bleus ont pu quand même être caractérisés et montrer qu'il s'agissait d'un pigment bleu issu de matériaux organiques et qui se forme lors du, enfin, qui devient bleu finalement au moment du broyage et de la fermentation des matériaux. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est confirmé par des traces cette fois-ci de présence de l'ADN de cette même plante dans des sédiments archéologiques d'un site à 36 000 ans dans le Caucase, donc à proximité. Donc là, on commence à avoir un faisceau d'indices quand même pour nous dire qu'on a peut-être dans cette région, en tout cas dans cette région, de l'utilisation de ces matériaux organiques pour réaliser un pigment bleu organique.
Si c'est pas comestible, cette plante-là, alors à nouveau, on se repose la question toujours très très difficile à résoudre pour ces périodes très reculées de la fonction et de la raison pour lesquelles on aurait pu broyer ces végétaux-là, quelles auraient pu être les fonctions de cette matière première-là.
Oui, alors on n'a pas forcément une utilisation initialement dans un rôle de pigment. En fait, on commence de plus en plus à découvrir que, notamment Néandertal, utilisé, alors là, et l'Homo sapiens aussi, à travers des analyses, par exemple, sur le tartre dentaire, d'être capable d'analyser les résidus alimentaires dans les tartres dentaires et se rendre compte que, déjà, d'une part, le régime alimentaire était peut-être un petit peu plus diversifié avec la présence de plantes, de l'amidon qui est découvert, qui montre la consommation de tubercules, etc. Et puis, des plantes qui n'ont pas de valeur nutritive et qu'aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à utiliser dans un cadre médicinal. Et donc de l'automédication qui pourrait avoir lieu. Alors, je ne sais pas du tout si c'est le cas pour
ce... C'est du très grand conditionnel pour ce
cas. Mais voilà, en tout cas, ça nous amène à avoir une vision plus globale de l'utilisation aussi des plantes par ces populations à la préhistoire.
Mais si ce bleu commence à pointer le bout de son nez pour ces artefacts paléolithiques, est-ce qu'il faut imaginer une préhistoire plus colorée que ce qu'on imaginait jusqu'à présent? Est-ce qu'il faut reprendre toutes ces collections qu'on a à disposition pour aller traquer des traces de bleu?
Alors oui, la préhistoire plus colorée, certainement. Alors par rapport à l'image qu'on en a, puisque déjà c'est des populations qui, de par l'usage de l'ocre de façon assez intensive sur certains sites, vivaient dans un environnement qui, par un moment, devait être assez coloré quand même, en termes de coloration rouge. On peut rajouter à ça qu'un certain nombre d'abris ornés, d'abris, archéologique était finalement orné, on le voit par exemple à l'abri Pateau, à travers de nombreuses écailles aux gravétiens qu'on retrouve dans les niveaux archéologiques. Donc ils vivaient dans un environnement très décoré, parfois même dans des niveaux avec de la polychromie. Et puis cette couleur, effectivement, on peut être amené à essayer d'orienter aussi des revues de matériel archéologique, de collections anciennes, avec cet œil d'essayer de détecter d'une part des pigments colorés et des pigments colorés organiques aussi. Donc des couleurs, du bleu, du vert, pourquoi pas, mais aussi des pigments rouges d'origine organique.
Est-ce que ce serait finalement des tâches auxquelles vous serez amené à vous confronter? Quelle collection finalement pourrait faire l'objet de ce type de réexamen, si on prend l'exemple de la France par exemple?
Il y a effectivement beaucoup de collections qui sont en train d'être revues. Il y a un gros engouement actuellement, et on le voit par l'état des publications, sur ces matériaux, avec différentes équipes qui travaillent là-dessus. Et on est amené, alors dans le cadre par exemple d'un programme de recherche qu'on a en Dordogne actuellement, à revoir un certain nombre de collections qui sont actuellement soit au Musée national de préhistoire, soit au Muséum national d'histoire naturelle, pour essayer de mieux comprendre ces collections. Et effectivement, avoir un regard neuf sur les possibles utilisations.
C'est fabuleux de voir que l'archéométrie et toutes ces disciplines finalement qui gravitent autour de ces périodes préhistoriques nous permettent de mieux comprendre et puis de faire un portrait de plus en plus coloré justement de cette préhistoire. Merci beaucoup à vous, Mathieu Lebon, d'être venu nous parler de ces pigments à la préhistoire et de ces pigments bleus qu'on espère plus nombreux dans les années à venir. Notre émission touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansigny, à la réalisation Hélène Trigueros. Merci à Paul Guigues aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.